suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel.
Ouh, il est 8h et on a encore les yeux qui sont tout collés. Mais on est sur les ondes de Radio Campus et comme tous les premiers lundis du mois, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du revenu de base présentée par Virginie. Bonjour Virginie, comment vas-tu ?
Bonjour Max, et Max à la technique et à la musique. Merci Max de faire tout ça. Figure-toi aujourd'hui, Max, mon invité est un syndicaliste qui a syndicalé toute sa vie. Donc on va avoir une entrée par le monde du travail, mais pas que, parce que depuis qu'il est à la retraite, il écrit des livres. Donc il a écrit deux livres, donc il s'appelle Patrick Hasbrook. Bonjour Patrick.
Bonjour Virginie.
On se connaît depuis déjà pas mal d'années, on a évité de compter, mais donc, tu fais partie du groupe local de Lille, donc groupe local du Mouvement français pour le revenu de base, qui maintenant s'appelle Prune, pour un revenu universel. Universel Nord. Et effectivement, comme je le disais, tu as été syndicaliste toute ta vie et tu en gardes encore les valeurs, au moins. Et tu as écrit deux livres, dont le deuxième, qui s'appelle « Des arguments pour en débattre, un revenu universel de base ». Alors, « Des arguments pour en débattre », sous-titre « Et prendre sa vie en main ». Donc, toi, tu prônes ce qu'on pourrait appeler un revenu universel de base. C'est comme ça qu'on va l'appeler. C'est un peu ta version. Mais avant de commencer, je te propose de répondre à notre question rituelle. Donc, imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Où tu aurais reçu, pendant ta vie active peut-être, puisque tu es à la retraite maintenant, donc imagine si tu avais reçu un revenu de base tous les mois jusqu'à la fin de ta vie et tu sais que tu l'auras toujours. Qu'est-ce que ça aurait changé pour toi ?
C'est vrai que je suis dans une situation un peu particulière puisque je suis à la retraite, comme tu dis. Donc on peut dire d'une certaine façon que le revenu de base, j'en ai un. Mais bon... C'est vrai qu'en tant que retraité, on n'a pas tous le même revenu.
Tout à fait.
Alors ça, c'est vrai, ça déjà, ça me pose une question. Parce que est-ce que parce qu'on a travaillé ou cotisé 3 ou 5 fois plus qu'un autre, on a travaillé 3 ou 5 fois plus qu'un autre ? J'en suis pas sûr.
Non.
Donc,
c'est pas comme ça que ça se compte.
On pourrait même imaginer un revenu, une retraite universelle.
Tout à fait.
Mais... Parce que, et même si on envisage les augmentations, elles se font en pourcentage. Donc, ça augmente en plus les inégalités entre les retraités. Et pour moi, un retraité est égal à un autre retraité. Donc, on pourrait imaginer le prix du beefsteak augmente pour tout le monde de la même façon, pas en pourcentage, pour tous. Donc, on pourrait même déjà imaginer un revenu de base, une retraite universelle déjà.
Ça serait plus facile, effectivement, que de faire des prix éthiques. Si on faisait des prix proportionnels aux revenus, le prix du beefsteak 5 fois plus cher pour celui qui gagne 5 fois plus.
On pourrait imaginer ça aussi.
Il y a un concept, mais à mon avis, le revenu de base est plus simple que ça.
Oui, on pourrait imaginer ça. Bon, alors, qu'est-ce que j'aurais fait dans ma vie active ? Puisque c'est vrai que je suis considéré comme inactif, comme retraité. Ça dérange un peu.
C'est pas ce que j'ai dit, parce que je sais que tu fais plein de choses. On reparlait du CCAS il n'y a pas longtemps, où tu es bénévole, etc.
Voilà, alors, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais peut-être moins fait, justement.
Ah bon ?
J'aurais peut-être moins fait pour... C'est vrai qu'on est dans une culture où il faut faire. On est dans la culture du faire, donc j'aurais été peut-être plus dans l'attention. J'aurais peut-être passé plus de temps à être attentif.
À quoi ?
À ce qui vient. Disons, j'aurais peut-être travaillé plus à être, à devenir moi, quoi. Je pense que c'est le travail le plus intéressant dans une vie. Devenir soi, non ?
Sans doute.
Et bon, hein, qu'est-ce que le travail ? Mais un travail sur soi, c'est important.
Tout à fait.
À la limite, pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi.
On est plus fréquentable en général quand on s'aime bien, c'est vrai.
Voilà, donc, et puis bon, on est tous liés, quoi.
Oui.
Hein, on est tous interconnectés. Même les physiciens nous disent que On a des poussières d'étoiles dans chacun de nous. Donc, faut travailler ça. Quoi. Donc, j'aurais peut-être, oui, travaillé moins, plus, passer plus de temps avec mes enfants aussi. Mm. Parce que ça m'a manqué aussi. Et je trouve que c'est important, quoi.
Oui, ça ne se rattrape pas.
Non, c'est difficile. Bon, maintenant, je suis grand-père depuis dimanche. Donc,
félicitations.
ça ne se rattrape pas, mais bon, on peut toujours faire.
Oui, tu vas quand même pouvoir passer du temps avec petite fille.
Oui, on est dans une culture du faire. Hein. Mm. Donc, c'est, je ne sais pas si ce n'est pas au détriment de l'être.
Du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, quand tu dis passer plus de temps avec tes enfants, c'est-à-dire que tu aurais travaillé moins ?
J'aurais travaillé moins, oui. Je pars du principe que le revenu de base, ça aiderait au partage du travail salarié, tout au moins.
D'accord.
Ça permettrait plus de créer soi-même son emploi.
Mmh.
Ou créer quelque chose à côté, quoi.
Parce que toi, tu as bossé entre guillemets toute ta vie, hein, toute ta vie d'actif. Tu as eu une carrière complète dans une seule boîte ou,
Ah non, j'ai fait plusieurs entreprises. Mais... Bon, tu disais tout à l'heure que j'étais syndicaliste. J'ai découvert le syndicalisme très tard. En fait, j'étais secrétaire d'un CHSCT,
donc comité
hygiène, sécurité et conditions de travail. Mais j'ai vu tellement de souffrance au travail que j'ai créé une section syndicale.
D'accord.
Qui n'existait pas dans la PME où j'étais. Mmh. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des PME, des TPE, hein, alors qu'elles représentent, je ne sais pas si elles ne représentent pas 90% des entreprises.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc j'ai créé une section syndicale parce qu'un contre-pouvoir, c'est important dans l'entreprise. Au début, c'est un peu difficile quand même, parce que je ne sais pas si c'est caractéristique à la France, mais le délégué syndical est souvent considéré comme un enquiquineur, quoi. Et inversement aussi, quelquefois, il y a des syndicalistes qui considèrent qu'ils sont un peu dans le patron salaud. C'est un peu dommage aussi. Donc on a du mal à arriver à un consensus. On ne s'écoute pas, on est contre le pour et pour le contre. C'est difficile d'avancer, mais après, j'avais de bonnes relations avec mon patron, puisqu'il y a de moins en moins de patrons. C'était le directeur général. Mais lui faisait son travail et il m'avait accepté. Moi, je faisais le mien.
Oui, donc en fait, ce que j'entends, c'est parce que rien que déjà, quand tu cites contre-pouvoir, ça veut déjà dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir et que du coup, il faut des contre-pouvoirs pour un équilibre.
Voilà.
Plutôt qu'une coopération de bon sens pour aller dans une direction qui est censée être au service de tous, au service de chacun, enfin voilà, du bien commun ou d'une façon ou d'une autre de l'humain, quoi. Mais. Peut-être qu'on n'en est pas encore là ou qu'il y a des constructions, des postures qui empêchent ça. Et effectivement, a priori, chacun a son niveau de responsabilité, son niveau de connaissance aussi. Et chacun est expert de son propre travail. Donc, on devrait plutôt être en coopération consciente, des enjeux et l'utilité de chacun. Mais...
Oui, à la première réunion du comité d'entreprise à laquelle j'assistais, j'avais bien compris qu'ils considéraient que j'étais là pour... ça le dérangeait, j'avais bien compris que ça le dérangeait. Alors je l'ai coupé net, je lui ai dit, moi je suis là pour vous signaler des problèmes de dysfonctionnement, du management par le harcèlement par exemple. Après vous déciderez en connaissance de cause. Bon, voilà.
Et du coup il prendra ses responsabilités aussi.
Oui.
Et alors du coup, dans ton livre, tu dis qu'avec un revenu de base, tu te serais engagé encore plus civiquement ou politiquement. Est-ce que tu as eu des opportunités ou des envies que tu as dû mettre de côté parce que bah oui, il y avait du temps à consacrer à l'emploi. On revient toujours hein, à cette question, c'est du mot travail qui veut dire souvent dans nos phrases emploi.
Oui, un revenu de base. Moi, j'aime bien dire un revenu universel de base,
oui.
Parce que c'est inconditionnel et individuel, quoi. Mm. Donc, c'est sûr que ça aide à... Pour moi, je le conçois comme un revenu de subsistance, plutôt. Donc, c'est un minimum de sécurité. Mmh. Et pour avancer, pour se construire, et pour construire, il faut un minimum de sécurité dans la vie. Quand on sait que du jour au lendemain, on peut se trouver sans ressources, ben, quelquefois, j'ai vu des collègues dépasser leurs limites, quoi. Mmh. Donc, ils ont déprimé et c'est difficile après de s'en sortir. Donc, ça, moi, je pense que ça permettrait d'améliorer aussi les conditions de travail.
Dans quel sens ?
Ben, dans le sens où, quand vous savez que vous avez un minimum de sécurité, ça donne plus de pouvoir pour peut-être négocier, discuter avec sa direction. Quoi.
En quelque sorte, sortir du chantage à l'emploi, en fait.
Voilà, ça c'est ça.
Du coup, ouais. Oser plus dire quand ça ne va pas.
Voilà.
Et signaler voilà, des mal-être ou des dysfonctionnements. Donc, en tant que syndicaliste, tu penses que ça pourrait être un levier pour faciliter ce contre-pouvoir dont tu parlais au début?
Oui, puis ça donne plus de pouvoir à l'individu, quoi. On peut plus négocier soi-même ses conditions de travail plutôt que de passer quelquefois par un intermédiaire. Bon, alors ça remet un peu en cause quelquefois la place des syndicats, mais ils peuvent aussi avoir une autre fonction. Hein. Ils peuvent accompagner ça dans ce sens-là. Quoi.
Oui, c'est pas incompatible avec, voilà, un cadre qu'on appelle le code du travail, avec des arrangements par secteur, etc., qui peuvent rassurer, qui peuvent poser des bases encadrées pour protéger, j'allais dire, un minimum sur certaines branches ou sur tous les travailleurs, ou, voilà, tous les postes possibles. Et à l'intérieur de ça, comme tu dis, accompagner plus quelque chose qui serait plus individuel. Je pense par exemple en termes de rythme, le respect du rythme. Quand on a 20 ans, quand on a des enfants, quand on est malade, quand on a des parents malades, etc. On peut avoir envie de changer de rythme de travail ou changer, je sais pas, de fonction, prendre plus de responsabilités ou moins, etc., etc. Et donc, on pourrait mieux articuler avec un revenu de base, en tout cas, tu me dis si je me trompe, hein, c'est ce que j'entends dans ce que tu évoques, mieux articuler une défense collective et une défense individuelle, puisque l'individu étant sécurisé, il peut s'engager dans la défense collective sans être stigmatisé et avoir peur d'être encore, d'être mal jugé ou mal... ou même pourquoi pas licencié, etc. Donc déjà ça sécurise ça, mais ça incite aussi à plus s'écouter et à être aussi dans un dialogue plus individuel. Et enfin, à ma connaissance, en tout cas, les syndicats accompagnent déjà ça, même si c'est pas forcément leur ni ce qu'ils avancent le plus. Ni ce qu'ils font, parce que là, pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de syndicats qui sont en train juste d'essayer de défendre les conquis sociaux qu'on a eus et qui sont en train d'être dénoués, défilochés de plus en plus. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est ça, d'après ce que tu dis, c'est que ça faciliterait aussi, ça légitimerait, ça rassurerait l'individu pour lui aussi, à titre personnel, pouvoir oser dire que ben non, mais là, j'ai un bébé, j'ai envie de bosser moins ou à tels horaires, etc. Parce qu'il aurait moins peur d'être licencié, c'est ça?
Oui, je crois qu'il y aurait moins de stress dans le travail, les gens seraient moins stressés, donc on serait plus... parce que l'absentéisme, le coût de l'absentéisme, c'est énorme. Mmh. Et à MITS, on n'est plus dans le gagnant-gagnant, on serait plus dans le gagnant-gagnant, quoi, puisque c'est pas quand on est malade, on est plutôt perdant.
Oui, c'est vrai que tu cites ça dans ton livre, avec une phrase que j'aime beaucoup, qui dit on parle du coût du travail, mais on parle pas du coût du non-travail.
Tout à fait.
Effectivement, les arrêts... ou même, parce qu'on parle plus souvent maintenant du faut pas que je me trompe, du burn-out, oui. Mais on parle aussi du bore-out, c'est quand on s'ennuie dans son emploi, ou quand on est mis dans un placard, ou voilà, et là aussi, ça a un coût individuel sur sa santé, parce qu'on n'a plus de sens y aller, voilà. Et on dépérit littéralement, de perdre du temps, on n'est pas connecté pour ça dans le cerveau. Et t'évoques aussi la santé mentale, enfin voilà.
Voilà, et puis c'est ni utile pour le salarié, ni pour l'entreprise. Puisqu'on est dans le perdant-perdant après.
Ah oui, complètement.
Donc,
oui.
C'est, c'est une catastrophe.
Et c'est vrai que dans les quelques expérimentations où on voit des entreprises qui décident, par exemple, de travailler sur 4 jours, donc de réduire le temps de travail, en fait, ils disent que les personnes, leur personnel, finalement, travaillent non pas plus, évidemment, puisque en temps, c'est moins, mais mieux. Et réussissent la plupart du temps à faire la même dose de travail sur moins de temps parce que bah, ils ont aussi la conscience que ça leur permet de libérer du temps pour ailleurs et que voilà, c'est pas du flicage sur t'es obligé de rester 5 heures sinon ça veut dire que tu bosses pas, c'est plus il y a plus de confiance peut-être. Ce que j'entends, c'est ça, c'est une question de confiance et de coopération.
Oui. On est plus créatif, plus participatif.
Oui, c'est ça.
Donc forcément.
Tu parles aussi, alors tu parles beaucoup de responsabilisation dans ton livre, le fait que le revenu de base permettrait aussi, on est toujours dans le cadre dans l'entreprise ou d'un emploi, de du coup, puisque c'est plus choisi, parce qu'on pourrait changer de conditions de travail ou négocier ou partir, du coup, on peut mieux s'investir et aussi prendre plus conscience d'un niveau un peu plus global, peut-être, de l'entreprise. C'est à quoi elle sert, où est-ce qu'elle va, peut-être ses enjeux à l'international, au national, au local, etc. etc. Ou par rapport aux matières premières, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, sortir d'une sorte un peu de passivité, de rôle juste d'exécutant, qui se plaint ou qui râle, mais qui finalement ne se sent pas appartenir à quelque chose qui a une fonction, qui a une utilité. Enfin voilà, j'ai compris un peu ça dans ton livre. Je ne sais pas si ça te...
Oui, puis ça commence par le contrat de travail. Souvent, le contrat de travail, ça doit être fait à deux, entre deux parties. Mais j'ai l'impression que souvent, le contrat de travail, il est fait par une seule partie. C'est rare que les salariés et travailleurs demandent un aménagement ou osent rajouter des clauses au contrat de travail. Ça commence là déjà. C'est déjà presque imposé.
Mais... Oui, en fait, on est un peu... Alors après, ça dépend des branches, mais c'est plutôt l'offre et la demande. C'est-à-dire que si tu es dans une branche ou dans un type de métier où il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, là, évidemment, tu vas te sentir plus légitime à négocier. Par contre, si tu es peu qualifié ou voilà, tu pars d'un besoin vraiment de pouvoir vivre et que c'est un emploi alimentaire, là où d'autres pourraient le faire, là, du coup, tu vas plus subir et être en posture limite de quémandeur. J'ai même vu en Normandie récemment, ils ont fait un défilé de mode de précaires, en fait, qui avaient customisé leurs habits devant des employeurs. Et j'ai trouvé ça très choquant parce que c'était plus du recrutement par rapport aux compétences, par rapport même à la compétence professionnelle, compétence de savoir-être, etc. C'était, ça faisait, je sais peut-être un peu fort ce que je veux dire, mais ça faisait un peu marchand aux esclaves, tu vois. Tu vois les précaires défiler et puis les employeurs qui disaient « Ah ben un tel, enfin... » Donc on est encore plus en deçà de ce que tu évoques, où les compétences et l'individu n'existent quasiment plus. Quoi. C'est...
Oui, ouais. C'est vrai que moi je pars du principe qu'on pourrait créer avec un revenu universel de base, qu'on pourrait créer soi-même, qu'on serait plus créatif, qu'on pourrait sortir un peu du salariat pour à côté... développer ces possibilités de création, quoi. Soit s'investir dans la citoyenneté, soit faire de la peinture, soit la chanson, soit animer une émission radio.
C'est par exemple, je sais pas.
Parce qu'une émission radio comme essentiel, c'est formidable quand même.
Hein,
là, on travaille sur l'essentiel ici.
Tout à fait.
Et c'est bien.
Mais du coup, tu dis que ça permettrait de diversifier les activités et que la participation à la société, ce serait plus seulement par l'emploi salarié, c'est ça?
Oui, oui. Oui, on pourrait créer un peu son propre emploi.
D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les expérimentations. Dans les expérimentations, on voit que les personnes qui reçoivent un revenu de base peuvent avoir envie de... puisqu'elles ne sont plus obligées d'attendre qu'un patron... et le financement, les compétences, enfin, voilà, un travail qui correspond à leurs compétences et au temps qu'elles peuvent donner, etc., etc., pour pouvoir travailler et vivre, avoir de quoi vivre. En fait, elles peuvent aussi plus simplement créer leur propre activité, même très localement, proposer leurs propres compétences. Et après, ça marche ou ça marche pas. C'est-à-dire, est-ce que ça rencontre une demande ou pas ? Si ça rencontre une demande, bah, c'est parfait. Si ça rencontre pas de demande, la personne qui offre ne perd rien, puisqu'elle a au moins son minimum pour vivre, quoi. Donc on voit que ça stimule l'économie dans ce sens-là, comme tu dis, où ça sécurise. Là, on passe du côté de l'employeur. Quand tu parlais des PME, PMI, ça peut sécuriser aussi ceux qui lancent leur activité. Est-ce que puisque tu as parlé de musique, je crois que ça a inspiré Max.
Mais oui, mais en fait, musique, salariat, etc. Tiens, mais pourquoi pas ne pas passer les Villards avec démission pour Claire.
Allez, c'est parti.
Tu connais ça, les Villards, non? Ça commence par et patron, prends-toi ça dans la tronche, un truc comme ça. Tu...
Non.
Si, ils sont un petit peu énervés.
Au boulot aussi.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. C'est un truc qui s'enlaille, un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit. Mais on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça, gratos, hein, vous faire brûle. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Tous Essentiels, l'émission du revenu de base, avec Virginie qui nous présente tout ça.
Et je vous présente en particulier Patrick Hasbrouck, un syndicaliste qui a écrit sur le revenu de base. Et donc là, on vient d'évoquer pas mal le monde du travail. Est-ce que ça pourrait changer, notamment dans les petites entreprises, entre sécuriser le patron et fluidifier les relations entre avec les employés et ce qu'ils vivent et les légitimer aussi dans leurs conditions de travail. On a évoqué le CHSCT, on pourrait reparler des risques psychosociaux, etc. Enfin, on est un peu dans ce domaine-là. Il y a une formule de ton livre que j'ai beaucoup aimée. Le travail n'est pas une valeur, il a une valeur. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ?
Oui, c'est vrai que le travail n'est pas une valeur, il a une valeur, donc il faut la partager, déjà. Donc, et je pense que si on considère que le travail est une valeur, c'est déjà déconsidérer les personnes qui n'en ont pas de travail.
Ah oui.
Donc c'est dommage.
Du coup, les chômeurs et chômeuses n'auraient pas de valeur parce que pas d'emploi.
Quelque part, oui.
On rappelle que le travail,
c'est dommage, oui.
Donc, sous-entendu, ils servent à rien et
Non, pour moi, c'est pas le travail qui est une valeur. Une valeur, c'est par exemple le courage, pour moi, l'honnêteté. Voilà, ça, c'est plutôt des valeurs, quoi.
Et donc, quand tu dis qu'il a une valeur, c'est pour mieux finalement demander de la distribuer de façon juste, c'est ça ?
Oui, voilà, partager au moins le travail salarié.
Donc, partager le temps de travail et partager les bénéfices du travail aussi ?
Ah, on pourrait imaginer de partager les bénéfices aussi, mais à la limite, même les bénéfices, on pourrait les partager au niveau entre tous les travailleurs. C'est vrai qu'on ne parle plus beaucoup de travailleurs, on parle beaucoup de salariés, mais c'est pas parce que moi j'ai vécu les deux. C'est pas parce qu'on est dans une entreprise qui fait du profit qu'on travaille plus qu'une entreprise qui n'en fait pas. Donc, il y a des entreprises qui font du profit, mais ils exploitent d'autres sous-traitants.
Oui.
Donc, limite, les bénéfices, on n'est pas obligé de les partager entre les salariés de l'entreprise. On pourrait mutualiser les bénéfices, comme la formation. Je crois que la formation, ça marche un peu comme ça. Chaque entreprise cotise dans un fonds, dans le privé, c'est un peu comme ça, pour que chaque salarié... puisse demander des formations. Mais bon, ça, c'est un peu idéal.
En fait, ce que j'aime bien aussi dans ton livre, c'est que tu reprends Rutger Bergman qui parle des utopies réalistes. Et on est là-dedans. C'est ce qui nous est présenté comme de l'idéal, souvent pour nous disqualifier ou nous prendre pour des bisounours. En fait, c'est souvent une façon juste d'éviter le sujet parce qu'il est très crédible, réaliste et réalisable. Enfin, on le voit au MFRB, au Mouvement français pour l'avenir de base, où on est en train de préparer un rapport qui s'appelle le rapport quinquin. Ça va plaire aux ch'tis qu'on est. Pour un revenu de base en un quinquennat, c'est tout à fait crédible, c'est réaliste, c'est finançable, il n'y a aucun problème. Il manque que, entre guillemets, la volonté politique. Et la politique, c'est nous. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est pas un idéal à partir du moment où on peut le mettre en place en 5 ans. Enfin, on ne peut plus appeler ça un idéal.
C'est dommage que le débat n'ait pas vraiment eu lieu. En effet, y a une personne qui avait remis cette idée au goût du jour, c'était Benoît Hamon.
Oui.
Mais le débat était... Il n'y a pas eu de débat derrière. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage.
Oui.
Donc on a dit que ça aurait coûté trop cher. Donc, c'est vrai que ça paraît utopique, mais les congés payés, c'était peut-être aussi utopique au départ, il y a quelques années.
Mais tu te rends compte, moi, quand j'y repense, payer des gens à partir en vacances, c'est fou.
Donc, au début, ça a dû paraître aussi très utopique.
Mais oui. Alors que voilà, le revenu de base, on sait que c'est tout à fait finançable et qu'en plus, ça nous ferait économiser des tas d'externalités négatives, comme on dit, sur la santé, sur l'écologie, sur tout ça.
Oui, puis je pense que le système d'aide, de toute manière, est devenu pervers, il est devenu trop coûteux. On va donner, par exemple, une prime de 7000 euros pour acheter une voiture électrique à quelqu'un qui a les moyens.
Mais oui.
Et puis, à côté de ça, on va donner 500 euros de prime pour aller au Resto du Cœur. Donc, en fait, c'est trop compliqué, le système actuel.
Oui, c'est pareil pour tout ce qui est rénovation de l'habitat, par exemple. C'est-à-dire, comme tu dois de toute façon avancer les sommes avant de recevoir les aides,
voilà,
forcément, il faut déjà les avoir.
Donc, si vous avancez les sommes, vous n'avez pas besoin d'aide, puisque vous pouvez payer.
Dans l'absolu, ouais,
donc,
oui.
Ça devient absurde.
Et puis, quelquefois, les règles... riches.
C'est ça. Effectivement, on voit que les aides ne sont pas pensées pour le bénéfice ni des humains ni de la planète, mais au mieux, c'est-à-dire, si c'est malheureux de dire ça, mais au mieux, c'est pour calmer une congrégation qui râle un peu trop d'un côté. Au pire, c'est pour trouver des moyens tortueux pour soutenir ou enrichir encore ceux qui ont suffisamment. J'aime bien une autre expression et j'aimerais bien que tu la développes. Tu dis que le revenu de base serait une révolution non violente.
Oui, parce que je pense que ça bousculerait un peu le rapport au travail.
Travail-emploi, travail-activité, qu'est-ce que tu entends par ce mot travail-là ?
Oui, ça donnerait plus de choix à l'individu. Donc, il serait moins obligé d'obéir à n'importe quoi. Donc, forcément, j'ai entendu dire une fois, comme argument contre le revenu de base, on aurait du mal à trouver des personnes pour faire les travaux pénibles, par exemple. Alors, c'est peut-être vrai, mais on serait peut-être obligé de les partager, plutôt que de les imposer à certains toute leur vie. Bon. Ça sera peut-être gênant, hein, pour certains, mais bon. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de pénibilité, ça fait 10 ans, 15 ans que c'est un débat qui ne peut pas aboutir, parce qu'il y a trop de critères actuels. Il y a trop de critères, maintenant c'est des critères psychologiques. Avant la pénibilité était physique, mais maintenant c'est le même travail dans des entreprises différentes, il sera pénible dans une entreprise, pas dans l'autre. Si vous êtes payé 15 mois de salaire, c'est moins pénible que si vous êtes payé 12 mois. Le management, ça fait partie aussi des conditions de travail. Donc, il y a trop de critères. La pénibilité, il faut permettre aux personnes d'évoluer dans leur travail au cours de la vie. Il ne faut pas imposer à quelqu'un de faire un travail pénible toute sa vie. Il faut lui permettre de changer plus facilement, d'évoluer, plutôt que de l'enfermer dans une case et de dire on va réfléchir à ce qu'on peut faire, qui n'aboutit jamais à rien d'ailleurs.
Mais ce que j'entends, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est vraiment le terme de révolution, c'est-à-dire on se retourne, quoi. C'est qu'on voit bien dans ta façon de présenter les choses, qui me semble très juste, que ça dénonce l'impasse dans laquelle on est. C'est-à-dire que les travaux pénibles, tout le monde sait qu'ils sont pénibles parce que la majorité des gens ne voudraient pas les faire, ce qui est quand même un bon critère.
C'est ça.
En fait, ils sont tellement pénibles que pour les faire quand même, on est obligé d'obliger les gens. Et obliger les gens, c'est en les affamant. Et donc, il faut pouvoir installer un chantage à la fin, un chantage à l'emploi. Sinon, ce ne serait pas fait. Et c'est bien, ça montre bien que c'est une impasse. Là où on pourrait, comme tu le fais, penser différemment, dire ok, bah si pour nous, alors déjà il faudrait revoir, là tu le cites pas, mais ça fait partie aussi d'une de tes approches d'une sobriété heureuse, etc. Donc on pourrait déjà interroger au fait, est-ce que c'est vraiment essentiel, voilà, à notre niveau de vie, etc. Donc ça c'est une première chose, mais c'est aussi l'idée de bah ok, si jamais cette fonction là est vraiment pénible, désagréable, qu'elle casse le physique, etc. Bon, on peut trouver d'autres façons. Ce que j'entends, c'est que le revenu de base permettrait déjà de remettre la pénibilité, non pas comme des grands critères transversaux qui peut-être ne sont pas tous pertinents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir supporter plus ou moins telle ou telle chose dans tel ou tel contexte et qui ne vont pas le trouver pénible là où d'autres le seraient. Ouais. Je mets à part des critères validés scientifiquement qui cassent le corps. Voilà, je relativise pas tout, hein, mais qu'effectivement, renvoyer à l'individu son propre ressenti par rapport à la pénibilité de son emploi. Parce que, voilà, effectivement, j'ai eu des enfants, enfin, j'ai un enfant, je sais que après la naissance de mon enfant, il y avait des choses que je voyais différemment en termes de temps de travail parce que j'avais tellement envie de passer plus de temps avec lui ou de dormir. Voilà, bon, mon emploi devenait plus pénible parce que j'avais surtout besoin de dormir. Et voilà, donc il y a une pénibilité qui est très subjective finalement, qui est relative au fil de la vie, qui est relative aux circonstances de la vie, etc. Donc le fait de donner un revenu universel de base, j'entends que pour toi, ça remet aussi ça redéplace une partie des critères et de la notion de pénibilité à l'individu. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de redonner à l'individu du pouvoir de négociation par rapport à lui-même, oui, ce qu'il vit lui-même. Et alors, quand tu dis donc, révolution, j'entends, pourquoi tu parles de révolution non violente ?
Ben, parce que il n'y a pas de casse derrière, quoi. Je ne vois pas de la casse, quoi. C'est ça, tu vois, c'est pas violent pour moi, c'est...
On n'est pas obligé de passer par des barricades ou des têtes sur des pics. On a entendu quelques gros mots dans la chanson précédente. Donc effectivement, il peut y avoir un certain... Oui, et complètement légitime, un niveau de colère et d'autodéfense. Je ne vais pas mettre le mot violence exprès parce que voilà, il y a violence institutionnelle et il y a violence de résistance, de survie. Mais du coup, effectivement, pour toi, tu vois le revenu de base comme un levier de révolution, donc de changement assez radical quand même. Tu parles de la relation au travail, etc. Mais sans avoir besoin de tout casser ou de tuer, d'abattre une partie des gens.
Bien souvent, malheureusement, on est dans des relations de force. On n'est pas dans des relations d'intelligence. Ça serait intelligent pour moi, pour ça que je parle de relation... de révolution non violente, on serait dans une relation d'intelligence déjà.
Comme ce qu'on disait tout à l'heure, entre le patron et un employé, d'être dans une relation d'intelligence, de coopération, pour le bien du but, ou dans les associations, on appelle ça l'objet de l'association, la raison d'être d'une entreprise ou de l'organisme, et d'être tous, selon sa place, au service d'eux, plutôt que d'être en concurrence et... Et à quel prix, quoi ? On a parlé du prix.
Oui, alors ce qui est dommage souvent, c'est qu'il y a des très grosses entreprises. Je trouve qu'on devrait encourager les PME, les TPE, parce que souvent, on ne parle que des grosses entreprises, dans lesquelles, d'ailleurs, on n'a jamais affaire au patron, puisqu'on a affaire à des actionnaires. Ça devient presque inhumain, quoi.
Et qui ont acquis un sacré pouvoir sur la société complète, parce que elles font travailler les petites entreprises. Elles sous-traitent, etc. Des conditions toujours minorées.
Elles exploitent aussi.
Oui. Bah oui, ça va jusque-là. Oui. Est-ce que tu veux bien nous présenter de façon très pratico-pratique la version que tu soutiens, donc ton revenu universel de base, autant en termes de montant que de financement. Qu'est-ce que tu mettrais dedans ou pas
Moi, je vois bien une expérimentation au niveau national. Ou un revenu universel. Alors, moi, je ne suis pas au pouvoir, donc je ne connais pas le montant de toutes les aides, parce qu'il y a des aides à tous les niveaux.
Oui.
Il y a des aides aux entreprises, il y a des aides pour changer les fenêtres, il y a des aides aux plus pauvres. Je serais curieux de savoir le montant de ces aides. Et si on partageait ce montant en part égale, je serais curieux de savoir combien ça ferait. Ça ferait peut-être 700, 800, 900 euros.
Alors, on a déjà des bases. On a reçu Marc de Basquiat et Guy Valette ici, dans deux émissions différentes, qui nous ont dit que si on mettait à plat tout ce qui est déjà donné par l'État, pour faire très vite, y compris les niches fiscales et par exemple, effectivement, le RSA, on met de côté l'APL et l'AH. On ne touche pas évidemment au service public ni à la Sécu, mais ça fait, donc sans apport supplémentaire ça fait 500 euros par personne par mois, par habitant français. Donc ça c'est déjà compté. Donc ça c'est la version de Marc de Basquiat. Et Guy Valette a rajouté à ça pour aller jusqu'à 800 euros. Donc là, on a des repères. Donc toi, tu te situerais plutôt
au niveau du... On pourrait supprimer et faire évoluer le RSA, le transformer en revenu universel, par exemple. Expérimenter ça. Et je pars du principe aussi qu'on partagerait le travail salarié.
Donc ça s'accompagnerait aussi de moins de travail hebdomadaire.
Oui. Je parle de ce principe-là. Ça serait une hypothèse à vérifier.
Tu cites dans ton livre...
Donc moins de chômage aussi.
Oui, bah oui, puisqu'on partagerait...
Et peut-être moins aussi d'absentéisme, parce qu'à la limite, il faudrait rajouter le coût de l'absentéisme. On a rajouté le coût des aides, mais le coût de l'absentéisme, c'est énorme. Je pars du principe aussi qu'il baisserait.
Oui, sans doute. De toute façon, on ne peut pas être absent un jour où on ne travaille pas. Oh là là, je viens de dire une grande vérité. Sans... En tout cas, effectivement, dans ton livre, tu recites Rutger Bregman qui parle de 15 heures. Tu dis on pourrait déjà commencer par 25 heures par semaine. Et pourquoi pas, à terme, 15 heures selon l'organisation.
Bah, tout à fait.
De réduire.
Et c'est vrai qu'on je pense que c'est toi qui m'avais évoqué cette idée. On pourrait commencer par un revenu enfant. Un revenu enfant, actuellement, je crois que les allocations familiales commencent à partir de 2 enfants. Un enfant, je pense qu'on n'a pas grand-chose, on n'a rien. 2 enfants, on a un petit peu. 3 enfants, on a beaucoup. Je pense que le système d'allocation familiale de natalité pourrait être revu aujourd'hui. Il n'a plus lieu d'être, quoi. Donc on pourrait faire en part égale. Ça ne coûterait rien en plus.
Tout à fait.
Si les allocations familiales, on les partageait de façon égale par enfant, c'est un système qui ne coûterait rien.
Et puis on n'a plus besoin de pousser les gens à faire plus d'enfants. On est suffisamment sur Terre pour nourrir tout le monde. Donc.
Le premier, c'est déjà peut-être le plus difficile.
Je ne vais pas vous raconter un accouchement. On va plutôt mettre un peu de musique. Max, sauve-nous. Mais c'est du travail aussi.
Mais écoute, je te propose une petite chanson de Lycée Barrier qui s'appelle tout simplement « Il n'y a plus de sous ».
Il n'y a plus de sous.
Mais non, il n'y a plus de sous.
C'est bien où ils sont les sous. Hein.
Maman, un sou, ça n'est plus un sou comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, les sous, on les voyait pas souvent. Le père les cachait, il faut être prévoyant. On savait si on avait des sous ou pas en regardant la bosse qu'il y avait sous le matelas.
Oui, monsieur.
Mais au jour d'aujourd'hui, il faut faire la comptabilité. Même le cul des poules, maintenant, il faut le calibrer. Car si on a le malheur de faire des œufs trop gros, paf, ils vous foutent dans une tranche supérieure d'impôt. Olé, vache, bon sang, bon sourire.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, quand on allait vendre ses pommes de terre, c'était au bistrot devant une chopinée de verre. On se tapait dans la main pour conclure le prix. Paf, parole de nez, cochon qui s'en dédie.
Oui, monsieur.
Mais au jour d'aujourd'hui, pour vendre le fromage de nos bics, faut se servir d'une calculatrice électronique. Car s'il y a de la hausse dans le dollar américain, et bon, il y a de la baisse dans le reblochon et dans le crottin. Oli, vache, bon sang, bon joueur.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Un sou, ça n'est plus un sou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de sous, papa, y'a plus de sous, maman.
Les sous qu'on a, c'est des sous, mais ça n'est plus de l'argent. Autrefois, on se mariait pour faire des enfants. Et la fiancée était choisie par les parents. Oh, c'était bien si elle avait de jolis tétons. Mais l'important, c'est ce qu'elle mettait dans le corbillon.
Ah oh, ouais, monsieur.
Mais au jour d'aujourd'hui, la femme doit tenir la caisse. Ma Germaine à moi, c'est la reine du show business. Elle dit que pour s'enrichir, il faut s'endetter. Quand elle l'a dit ça, le grand-père a ben failli claquer.
Oh, on sent mon frère, y'a plus de chou, papa, y'a plus de chou, maman. Un chou, je n'ai plus un chou, comme on disait dans le temps. Y'a plus de chou, papa, y'a plus de chou, maman. Les choux qu'on achète, les choux, mais ça n'est plus de l'argent.
Y'a plus de chou, papa, y'a plus de chou, maman.
Un chou, ça n'est plus un chou, comme on disait dans le temps.
Y'a plus de chou, papa, y'a plus de chou, maman.
Les choux qu'on achète, les choux, mais ça n'est plus de l'argent.
Oh, on s'en sort quand même. Mais ça coûte cher, les petits voyages en Suisse.
Ben oui, hein. C'est pas donné, les petits voyages en Suisse. Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus sur le 106,6 de la bande FM, mais également en DAB+, ou sur le www.campuslille.com. Et c'est lundi matin, c'est le premier lundi matin du mois. Il est 8h quelque chose, pouf, bientôt 9h. Et donc, c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du Revenu de Base.
Et oui, et on reçoit aujourd'hui Patrick Hasbrouck, qui a une particularité, un enrichissement particulier. On parle d'enrichissement, tu vois, dans cette émission. C'est qu'il a une entrée syndicaliste. Et donc, justement, il nous faisait, nous décrivait qu'avec un revenu universel de base, on pourrait avoir, c'est une de ses formules dans son livre, une sécu flexibilité. C'est-à-dire qu'on pourrait, grâce au revenu de base, avoir une sécurité de base, et pouvoir à partir de là être plus flexible sur son temps de travail. Donc on vient de parler du partage du temps de travail, du partage des bénéfices aussi, etc. Et tu parlais aussi par rapport au salaire. Qu'est-ce que tu changerais en plus du revenu universel de base?
C'est vrai qu'avec un revenu universel de base, ça ferait augmenter une personne qui est payée au SMIC à 1400-1500 euros. Si on le mettait même à rien qu'à 600-700 euros, ça ferait augmenter son salaire de 50%. Donc, il serait augmenté beaucoup plus qu'une personne qui gagne 5000 euros. Donc, déjà, ça serait plus juste, quoi. Oui. Parce qu'il vaut quelquefois, je pense qu'il vaut mieux avoir... Il faut raisonner en revenus, quoi. Pas seulement en salaire.
Oui.
Il vaut mieux... Je préfère avoir un revenu plus important qu'un salaire basé sur... sur 12 mois, quoi. Si vous avez le même salaire basé sur 12 mois ou 15 mois, au bout de l'année, il faut raisonner en revenu annuel, quoi, bien souvent. Mais bon, ce qui me plaît bien, c'est que ça augmenterait le revenu d'une personne payée au SMIC de 50%, quoi.
Du coup, qui dit revenu, plus de revenus, dit plus de pouvoir d'achat et plus de pouvoir d'agir.
Oui, et puis on est dans un système où certaines personnes... hésitent à reprendre un travail, parce que si elles reprennent un travail, elles perdent les aides, ça devient compliqué, ou alors elles doivent réouvrir les dossiers qu'elles avaient fait ouvrir, c'est trop compliqué. Donc une personne qui travaille gagnerait forcément plus qu'une personne qui ne travaille pas déjà, avec un revenu universel.
Et par rapport au salaire, du coup
Alors, j'ai entendu un argument qui était contre... contre le revenu de base, je ne sais pas si tu dois le dire ici, mais c'était s'il y avait un revenu de base, les patrons augmenteraient moins les salaires.
Ah.
Bon, il y aurait toujours un SMIC, c'est vrai qu'on peut dire ça, mais à ce moment-là, on pourrait retourner l'argument avec les PEL, les aides au logement, ça a tendance à faire augmenter les loyers. Donc on aurait dit on est contre aussi. Mais là, ils ne sont pas contre, donc il faut être cohérent.
En tout cas, effectivement, pour tout ce qui est pour l'impact des APL, il y a une dérive qui consiste à dire, puisque tu as des APL, j'augmente ton loyer. Donc, voilà. Il ne faudrait pas, et ça c'est un critère du mouvement français pour le revenu de base pour repérer les régressions, c'est-à-dire que si le revenu de base sert à faire baisser les salaires, là évidemment on s'oppose parce que ce n'est pas l'objectif, mais dans ton livre, tu préconises aussi de limiter les écarts de salaire. Oui. Tu es plus ambitieux que la plupart, puisque tu te proposes de 1 à 3, un rapport de 1 à 3. C'est-à-dire que le plus haut salaire de l'entreprise ne dépasserait pas 3 fois le plus bas salaire.
Oui, on me dit que j'exagère, mais bon, je trouve que c'est déjà bien. 3 fois, personne ne travaille. Si on raisonne en nombre d'heures, personne ne travaille plus de 24 heures.
Oui, tout à fait.
Et bon, c'est vrai que dans les retraites, par exemple, on parle des cotisations. J'entends des personnes dire « j'ai cotisé toute ma vie ». Alors qu'elles sont en retraite depuis 20 ans, depuis 20 ans par exemple. Donc, depuis 20 ans, elles ne cotisent plus.
Oui.
Donc on est dans un système assez égoïste. Elles ne cotisent plus. D'ailleurs, je crois qu'on a épuisé son droit à cotisation, si on raisonne en cotisation, au bout de 18 ans.
D'accord.
Donc elles devraient ne
mourir
plus rien toucher.
Au bout de 18 ans, mais faites-le savoir.
Je pense que ça doit être à propos de ça, j'ai entendu, à vérifier, mais...
Bon, après, avec tous ceux qui travaillent et qui meurent le lendemain de leur peau de retraite, je crois qu'on peut faire une moyenne.
On ne tient pas compte du nombre d'heures travaillées.
Oui,
ça pourrait être un coefficient.
C'est vrai qu'on clame beaucoup le mérite dans notre société, mais on est loin de l'appliquer vraiment. Et alors, c'est intéressant aussi parce que dans ton livre, tu évoques, tu brosses un peu toute la société comme un scan en disant, voilà, s'il y avait un revenu de base, ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre avec, ou qu'est-ce qu'il faudrait changer. Et là, on voit vraiment la notion de révolution dont tu parles, parce que c'est systémique, tu as une vision systémique des choses. Tu parles notamment de ce que tu voudrais changer dès l'éducation, en fait, dès l'enfance, parmi les valeurs à transmettre aux enfants.
Ben c'est vrai que tout se fait dans la plus tendre enfance. Hein. Donc moi, ça m'a manqué de ne pas pouvoir passer plus de temps avec mes enfants. Mais c'est...
Et du coup, dans ton livre, tu évoques le fait que y aurait sans doute des choses alors, qui existent déjà. Enfin, moi, en tant que professeur, je vois bien qu'on est très loin des caricatures de l'école à l'ancienne, etc. Mais voilà, de plus renforcer la coopération, par exemple, que la compétition pour développer ses capacités à prendre l'autre en compte, à savoir s'affirmer, à savoir co-construire des choses. Tu parles aussi de revaloriser toutes les filières, y compris les filières manuelles ou les filières artistiques. On voit maintenant en ce moment la réforme du lycée professionnel qui est une catastrophe et qui pousse juste à plus de précarité et voilà, les jeunes, on les envoie en apprentissage et en cela, on délègue un peu la notion de formation directement aux entreprises qui peuvent sans doute pour la plupart vraiment prendre cette fonction à cœur et y trouver des avantages partagés. Mais voilà, en tout cas, revaloriser dans les mentalités, y compris des parents et des jeunes, tous les types de métiers, en fait, toutes les compétences.
Oui, alors, pour parler des enfants, c'est curieux. S'occuper des enfants des autres, c'est considéré comme un travail. Oui. S'occuper de ses enfants, ce n'est pas considéré comme un travail.
Alors, c'est pour ça rémunérer, que
c'est un peu... Voilà, donc ce n'est pas reconnu. La reconnaissance, c'est important dans la vie, à reconnaître les individus.
Oui, et je suis touchée aussi dans ton livre par le fait que quand tu parles de cette reconnaissance, tu évoques aussi plein d'autres façons de la donner. Donc, il y a le côté financier. On vient de parler de la revalorisation des salaires. Il y a aussi la reconnaissance sociétale, par exemple, en revalorisant les filières ou même dans les entreprises. Est-ce que chacun est... soit reconnu comme expert de son propre travail, de son poste finalement, et donc écouté en tant que tel. Et tu vas même jusqu'à défendre plus de démocratie dans l'entreprise. Je crois que c'est le sujet principalement de ton premier livre, mais tu dis dans le deuxième que ça a trouvé une forme... une forme d'aboutissement, en tout cas, ou peut-être une façon plus concrète de pouvoir y arriver, grâce au revenu universel de base, d'aller vers plus de démocratie, même en entreprise, vous allez dire même.
Oui, alors tiens, je vais revenir un peu sur le trois fois le revenu, le salaire trois fois. Plus on fait un travail intéressant, plus on est payé, plus on a choisi son travail. Oui, donc, est-ce que ça justifie des écarts de 1 à 20 ? Pour moi, non. Plus le travail est pénible, moins il est payé, moins il est reconnu. Parce qu'en limite, on est dans un système où on reconnaît les personnes seulement par l'argent, bien souvent. C'est un peu dommage, d'ailleurs.
C'est vrai, même si en France, c'est assez tabou de parler de son salaire, mais ça reste...
Il y a beaucoup de personnes qui dépriment parce qu'elles ne se sentent pas reconnues. C'est pas toujours une question d'argent, hein.
Je peux témoigner que même juste en tant que prof, alors qu'au 19e siècle, le professeur, c'était le notable du village au même titre que le curé et le maire et le médecin. Aujourd'hui, on entend des élèves, et ça m'est déjà arrivé, dire « Ouais, enfin bon, vous, pour ce que vous êtes payé, oui, et petit morveux !» Et en fait, c'est quelque chose qui pourrait... En tout cas, dans la bouche des élèves qui le disent, ça impacte, ça diminue notre autorité. Alors, je mets beaucoup de sens derrière le mot autorité, mais là, en tout cas, la légitimité de les accompagner comme éducateurs. C'est assez prégnant, comme tu dis, que la reconnaissance par l'argent définit une sorte de valeur collective alors qu'elle n'est pas du tout négociée collectivement. Si on écoutait vraiment, à part de dire il faut à tout prix faire des économies, ce qui justifie qu'on soit moins payé, je parle aussi des soignants, etc., dans les services publics en général, je ne vois personne qui dise ou qui ose dire encore que l'éducation ou la santé, ça ne sert à rien, ou même les routes. Alors, tu évoques aussi, tu mets en lien avec un revenu universel de base l'idée de donc, que ça changerait le marché du travail, plus généralement l'entrepreneuriat, voilà, puisque, on l'a dit, ça pourrait stimuler et rassurer et sécuriser l'auto-entrepreneuriat. Tu dis aussi que ça aurait un impact écologique et par rapport à notre consommation. Sans doute qu'on serait moins compulsif. Moi, peut-être que j'achèterais moins de trucs très sucrés et très gras s'il y avait moins d'horreur à la télé. Mais aussi, tu parles en termes aussi de sens dans notre mission, en tout cas, voilà, ce qu'on met au bout de notre travail, je pense, au sens global du terme. Parce que tu évoques, par exemple, l'économie sociale et solidaire. Quel impact tu pourrais projeter d'un revenu universel de base par rapport à la transition écologique qui est
oui,
essentielle?
Je pense que plus de sobriété, ça ferait du bien.
Oui.
Mais c'est plus d'essentiel, quoi.
Mmh. Oui, tu parles beaucoup de développer plus l'être que voilà. Le faire et l'avoir. Tu mets les trois en regard les uns des autres. Et c'est ce qu'on voit dans les expérimentations, d'ailleurs. C'est-à-dire que quand les gens sont sécurisés, même si le revenu de base qui leur est donné n'est pas suffisant pour vivre, on voit que comme ça apaise, il y a moins d'achats compulsifs, il y a moins de drogue, entre guillemets, que ce soit le tabac, l'alcool ou autre, et beaucoup plus d'investissements sur le long terme, notamment sur les enfants, l'éducation, une bonne nourriture, manger bio, etc. Donc ça va dans le sens de ce que tu dis. On pourrait aussi imaginer que les gens, du coup, s'ils cherchent plus de sens dans leur métier et qu'ils ont plus de flexibilité, c'est-à-dire plus de marge de manœuvre pour choisir leur emploi, ils pourraient aller plus vers des emplois qui sont moins... déjà, qui sont plus utiles, voilà, qui servent vraiment à quelque chose, et aussi qui soient plus en adéquation avec les limites planétaires, notre impact écologique, etc. Enfin, je ne sais pas si tu voyais aussi ça quand tu évoquais ça dans ton livre.
Oui, il y aurait plus de flexibilité choisie, quoi, parce que c'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup de flexibilité, mobilité, disponibilité, mais ce n'est pas choisi, quoi, donc c'est imposé, donc ça devient quelquefois insupportable. Quoi.
Oui, c'est ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, dès que je suis obligée de faire quelque chose, ça me plombe. Alors même que ça peut être des choses que j'aime bien, notamment mon métier, mais quand c'est obligé, bah, j'aime moins. C'est con. Non, vous aussi ?
Alors là, tu prêches un convaincu. Fou là là. Ah, bref.
Et même faire la vaisselle, quand je fais la vaisselle, parce que je viens de recevoir des copains ou la famille, d'ailleurs, je préfère la faire tout de suite dans la foulée, parce que ben, ça me rappelle les temps partagés, c'est presque plaisant, presque. Mais quand je suis obligée de la faire parce que ça déborde...
Pas facile, hein.
Donc effectivement, la notion de choisi et de subi, c'est effectivement un axe central dans toutes nos activités, dans tous nos engagements.
Il faut que ça vienne de soi. Ouais.
C'est ça. C'est beau.
Ben écoute, ça conclut bien cette émission. Ça tombe bien, c'est la fin.
Ben merci beaucoup, parce que je trouve qu'on a, grâce à toi, réussi à explorer beaucoup le... En même temps, le collectif avec la défense collective des conditions de travail, avec des engagements collectifs sur la planète, etc., etc. Et en même temps, un retour aussi et à l'écoute et à la responsabilisation individuelle. Et je trouve que ça rejoint bien les deux aspects d'un revenu de base qui est en même temps égalitaire, très collectiviste dans ce sens-là, et en même temps très libéral parce que ça rend la liberté à l'individu, quoi.
Alors, merci Max. Pour cette émission, tout c'est essentiel.
Yes. Mais
avec plaisir. Et puis, ben, nous, on se retrouve le mois prochain.
Oui, et en attendant, je vous renvoie, si vous êtes dans la région lilloise, vous pouvez nous retrouver, Patrick et moi, aux réunions tous les troisièmes mardis du mois. On se retrouve au Café Citoyen de Lille, et, ou alors sur la page Facebook Revenu de Base Lille, ou par tout autre moyen que vous voudrez. Voilà, forum des associations, dans les manifs aussi, ou n'hésitez pas à venir débattre avec nous et agir.
Et c'est à quelle heure échelle.
C'est de 19h à 21h. On okay. ramène des trucs à grignoter et puis on prend une consommation au Café Citoyen pour les soutenir aussi. Ce qu'ils nous reçoivent.
Allez, trop bien.
À tout bientôt.
À tout bientôt.
Merci Patrick.
Au revoir à toutes et à tous.
Je suis essentiel. On est essentiel. Allez, allez. Oui, essentiel.